VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité aux États-Unis et la présidentielle américaine 2016. Face à face entre la candidate démocrate à la présidence Hillary Clinton et son rival républicain Donald Trump à la télévision ce soir pour leur premier débat en direct. À 6 semaines de l'élection du 8 novembre, les deux aspirants à la Maison-Blanche sont au coude à coude dans les sondages. Les détails avec Saloua Jafari.
Pour l'instant, aucun des deux candidats à la Maison-Blanche ne part favori. Ils sont à couteau tiré depuis un an, s'accusant de tous les maux, mais ne se sont jamais retrouvés en face à face. L'enjeu est de taille. C'est vrai que beaucoup d'électeurs ont déjà fait leur choix, mais les débats peuvent toutefois avoir un impact sur les indécis qui décideront du successeur de Barack Obama. Et cette année, ils sont plus nombreux qu'il y a 4 ans. 9% des électeurs selon un sondage NBC. Pour comprendre un peu l'importance de ce débat, je vous propose tout d'abord d'écouter Jeremy Meyer de George Mason University et Stephen Wayne, il est de Georgetown University.
Le débat établit la stature. Ça vous permet de vous tenir sur le même pied d'égalité avec quelqu'un de très connu.
Les débats présidentiels sont importants lorsque les candidats sont très proches dans les sondages. La plupart des gens qui suivent les débats espèrent que leur candidat favori fasse une bonne performance.
Clinton ou Trump, les deux candidats auront l'occasion de convaincre pendant les débats. Il y en aura 3. Clinton est souvent perçu comme trop cérébral, Trump trop viscéral, impulsif. Le débat risque en tout cas d'être explosif.
L'Afrique maintenant, le pape François a reçu ce lundi matin au Vatican Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, pour une audience préparée avant les violences meurtrières ayant secoué la RDC. Il y a une semaine, selon un communiqué du Saint-Siège, une attention particulière a été prêtée pendant la réunion aux sérieux défis posés par la situation politique actuelle en RDC et les récents affrontements qui se sont produits à Kinshasa, la capitale. L'importance de la collaboration entre les différents acteurs politiques et les représentants de la société civile, ainsi que les communautés religieuses, a été soulignée, précise le texte, pour promouvoir le bien commun à travers un dialogue respectueux et inclusif pour la stabilité et la paix dans le pays. Le communiqué note aussi que la question des violences persistantes que subit la population de l'Est de la RDC et l'urgence d'une coopération au niveau national et international pour fournir l'assistance nécessaire et rétablir la coexistence civile ont également été abordées. Le Vatican parle de discussions cordiales entre les deux leaders. RDC toujours, dit rebelle ougandais des forces démocratiques alliées, condamné à mort ce week-end par la justice militaire congolaise. Ils ont été reconnus coupables de massacres à répétition à Beni et ses environs dans l'est du pays. Le point avec Idrissa Sédoudia.
Le verdict est tombé tard samedi. C'est hier que Maître Idi Djuma, un des avocats de la défense, a annoncé que la cour opérationnelle a rendu 10 arrêts condamnant à la peine de mort 10 prévenus sans leur trouver des circonstances atténuantes. Les décisions de cette cour militaire ne sont pas susceptibles d'appel. La peine de mort n'est plus appliquée dans le pays où elle est systématiquement commuée en prison à perpétuité. Le procès qui a débuté le 20 août visait des auteurs présumés des tueries de Tenambo et Ocha, localités du territoire de Beni. Ces massacres à répétition sont majoritairement imputés aux rebelles ougandais des ADF. Le dernier massacre à l'arme blanche remonte à la mi-août. Selon l'ONU, au moins 50 civils ont été tués en une seule nuit.
Au Congo-Brazzaville, la majorité présidentielle propose à l'opposition de se retrouver autour des valeurs de la nation dans le cadre de la formule du vivre ensemble, plutôt qu'un simple dialogue en cette période de tension. Mais les opposants tiennent à un dialogue inclusif. En attendant, la guerre des mots agace plutôt la société civile. C'est le cas de la Commission justice et paix de l'Église catholique qui appelle au respect strict des lois. On écoute l'abbé Félicien Mavungu, coordonnateur de cette commission.
Notre combat comme Église, comme Commission justice et paix, c'est le respect de la légalité constitutionnelle. Donc, nous sommes pour le vivre ensemble, mais il faut bien qu'on échange, qu'on dialogue, mais pas de manière ponctuelle, mais de manière permanente, pour garantir ce vivre ensemble. Mais la meilleure garantie du vivre ensemble, c'est le respect des lois le respect des constitutions, le respect de la légalité.
L'abbé Félicien Mavungo, coordonnateur de la commission Justice et Paix de l'Église catholique au Congo, Brazzaville.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba sera investi pour un second septennat demain, trois jours après la validation de sa réélection par la Cour constitutionnelle. C'est toujours le calme dans le pays. Pourtant, le 31 août, de violentes émeutes et des pillages avaient suivi la proclamation des résultats provisoires qui avaient donné la victoire au chef de l'État. Comment expliquer ce calme? Idriss Fall a joint notre confrère Abel Mimongo du quotidien national L'Union.
Il y a trois hypothèses qui concourent à ça. La première, c'est un fort dispositif militaire qui a été mis à Libreville et à l'intérieur du pays également, dans les principales villes du pays, qui aurait pu effectivement décourager toute tentative de manifestation violente. La seconde, c'est peut-être l'appel du candidat malheureux qui a demandé à ce que les populations restent chez elles. Cela sûrement en raison de ce qui s'était passé le 31 août dernier. Ne voulant plus avoir des morts dans sa conscience, il a demandé à ce que les gens restent chez soi. Et puis l'autre hypothèse, c'est peut-être les parents aussi qui ont demandé à leurs enfants de ne pas bouger parce que, effectivement, c'est en se référant à ce qui s'est passé le 31 août dernier.
Le président Ali Bongo a lancé un appel au dialogue. Est-ce que vous pensez que son appel sera entendu par Jinping?
Oh, c'est pas possible puisque la réaction ne s'est pas faite attendre. À la limite, le camp de l'opposition a trouvé cet appel comme étant de l'humour noir. Ils ont rigolé en se disant mais comment quelqu'un qui a perdu les élections peut demander aux gens de venir parler de quoi d'ailleurs? Ils ont considéré ça comme de l'humour noir tout simplement.
Mais comment voyez-vous l'avenir? C'est-à-dire que Jinping continue de dire que c'est lui, en fait, le président clairement élu.
L'avenir, c'est un avenir social et économique parce que en fait, au Gabon, il y a cette habitude qui consiste souvent à laisser les choses se dérouler telles qu'elles sont et puis voir le pouvoir être confronté à ses propres problèmes. On aura forcément des difficultés d'un point de vue social, sans compter les difficultés économiques. Socialement, ce sont les rentrées scolaires qui seront difficiles. Il y aura forcément des arrêts de travail, des manifestations ici et là. Et il va falloir combattre les brèches. Il y a des gens qui ont perdu des parents, des enfants, et tout cela va faire en sorte que le pays soit, on va dire, coupé en deux. Une.
Et on nous dit qu'il y a quand même des arrestations jusque-là?
Oui, l'arrestation continue. Ce qui est plus grave, c'est que les gens débarquent chez vous à des heures tardives. Les gens qui ont été arrêtés, lorsqu'ils ont des gens qui les connaissent, ils sont tout de suite interpellés, portent sur eux des accusations, faisant état de ceux qui sont complices. Donc même les proches, aujourd'hui, vivent dans la psychose d'une arrestation. À tout moment.
Et Internet vient au compte-gouttes aussi, nous dit-on, surtout la nuit.
La situation ne s'est pas améliorée depuis le 31 août. On peut consulter Google de 6h du matin à 18h le soir. Et sans plus, les réseaux sociaux sont coupés. En tout cas, il n'y a rien sur Internet qui fasse que les choses soient revenues à la normale.
Notre confrère Abel Mimongo du quotidien national L'Union à Libreville au Gabon. Afrique de l'Ouest maintenant, au Mali, double assassinat hier soir à Tombouctou dans le nord-est du pays. Notre correspondant sur place, Abdoulaye Traoré, nous en dit plus.
C'est un double assassinat qui s'est produit cette nuit aux environs de 18h à Tombouctou, dans le quartier d'Abaradjou situé à la porte du Sahara. Selon les témoins, les assaillants sont quatre à bord d'un pick-up qui ont ouvert le feu sur un garde de l'armée malienne devant sa porte. Un de ses frères aussi fuitier, ce dernier s'est réfugié à l'intérieur d'une chambre, mais n'a pas échappé à son destin. Au moins, ces 6 coups de feu ont été tirés. Selon des sources proches du garde-feu, lui-même aurait affirmé qu'il est menacé de mort. Toujours selon les mêmes sources, on lui reproche d'avoir collaboré avec la force Barkhane. L'armée a aussitôt bouclé la zone pour l'enquête balistique, mais pour l'instant, on ignore l'identité des assaillants. Mais tout laisse à croire que cet assassinat porte la marque des islamistes. Abdoulaye Traoré depuis Tombouctou pour VOA Afrique.
Et vous terminez Maroc, les élections législatives du 7 octobre s'annoncent comme un face-à-face serré entre les islamistes du parti Justice et Développement qui dirige la coalition gouvernementale depuis 2011 et le PAM, le parti Authenticité et Modernité Formation d'Inspiration Libérale fondé en 2008 par un proche du roi Mohamed VI, Fouad Ali El Imma. Le PAM se pose en défenseur des femmes et de la parité. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
On y va.